François Legault.
Docteur Horacio Arruda, alors Monsieur le Premier ministre, à vous la parole.
Bonjour tout le monde. Bien, écoutez, d'abord, je veux vous dire que j'entends beaucoup de commentaires. Je parle à beaucoup de gens de beaucoup de régions, puis de plus en plus de Québécois qui suivent les consignes, de plus en plus de Québécois qui aident leurs voisins, qui aident les personnes qui sont plus vulnérables. Donc, très fier de la réaction des Québécois. Mais il ne faut pas arrêter. Il faut continuer à mettre en place toutes les mesures. Oui, on est dans une période difficile, mais après cette période-là, ça va bien aller. Bilan de la journée. Bon, malheureusement, il y a 2 décès de plus. Donc, on est maintenant à 6 décès. Donc, je veux offrir, bien sûr, mes sincères condoléances à la famille, aux proches des victimes. Maintenant, on a aujourd'hui 1339 cas confirmés. Donc, c'est une augmentation de 326. On a 78 personnes hospitalisées. C'est une augmentation de 11. Puis on a 35 personnes aux soins intensifs. C'est une augmentation de 4. On a beaucoup augmenté les tests, les analyses de tests. On a maintenant 26 600 cas négatifs, 3 000 en attente de résultats. Donc, quand vous analysez les chiffres, quand vous tenez compte de la grande augmentation du nombre de tests, ce sont quand même aujourd'hui, je dois le dire, là, des résultats qui sont encourageants. Mais la partie n'est pas gagnée et il faut garder nos bonnes habitudes. Bon, d'abord un mot sur la protection du personnel de la santé. D'abord, je veux rassurer tout le monde, on a tout l'équipement de protection nécessaire. J'avoue qu'on a eu des petites difficultés dans la distribution du matériel aux différents établissements. On est en train de corriger ça, là. Donc, il n'y a rien qui va être négligé pour protéger notre personnel de la santé. Puis, il n'y a pas de raison parce qu'on a tout l'équipement pour les protéger. Bon, maintenant, je reviens sur les résidences de personnes âgées. On a actuellement au Québec 3 résidences de personnes âgées qui sont infectées. Il y en a une dans la Naudière, une à Montréal, puis une en Estrie. Bon, d'abord, je vais vous dire que dans ces 3 résidences-là, toutes les mesures nécessaires ont été prises. Mais c'est très important, on le dit depuis le début, de tout faire pour qu'on augmente le nombre de résidences de personnes âgées infectées. C'est important parce que même s'il peut arriver, puis on a vu des cas où il peut avoir des conséquences graves pour des plus jeunes, il reste que les probabilités sont beaucoup plus élevées chez les personnes âgées d'avoir des conséquences graves. Et puis évidemment, bien, quand il y a des résidences de personnes âgées partout, que ce soit au Canada, aux États-Unis, c'est là, là qu'il y a le plus, malheureusement, de conséquences graves quand l'infection rentre dans les résidences de personnes âgées. Donc, je répète les consignes, je sais que c'est dur, mais pas de visite dans les résidences de personnes âgées. Les sorties des résidents doivent être faites sous supervision. Là, j'ai un message, entre autres, pour tous les propriétaires de résidences de personnes âgées, publiques, privées. C'est important, d'abord, de bien s'assurer que toutes les mesures nécessaires sont prises pour que le personnel soit en sécurité puis qu'il garde les résidents en sécurité. Puis toutes les mesures, quand on reçoit la nourriture aussi, doivent être prises au cas où la nourriture serait infectée. Donc, très, très important de bien, bien s'occuper des résidences de personnes âgées. Bon, l'autre phénomène qui continue de se poursuivre puis qui va se poursuivre dans les prochains jours, c'est toute l'arrivée des snowbirds, là, ceux qui vont passer l'hiver en Floride ou dans les destinations soleil. Très important, vous devez vous isoler pour 2 semaines. Très, très important, là, vous êtes à risque, donc vous restez à la maison pour 2 semaines, tous ceux qui reviennent de la Floride ou d'autres endroits comme ça. Maintenant, un mot pour les gens qui sont inquiets financièrement. Évidemment, là, les gouvernements, notre rôle premier dans la crise actuelle, c'est de s'assurer que tout le monde a assez d'argent pour manger, pour se loger. Donc, évidemment, il y a le loyer qui s'en vient le 1er avril. Puis les chèques devraient arriver à compter du 6 avril, les chèques du gouvernement fédéral. Donc, moi, je veux faire un appel aujourd'hui à tous les propriétaires d'être compréhensifs, d'être capables d'attendre quelques jours avant de recevoir le loyer du 1er avril. Ça ne veut pas dire que ceux qui sont capables de le payer ne doivent pas le payer, là, parce qu'il y a des propriétaires qui comptent là-dessus aussi pour avoir des revenus. Soyons compréhensifs. Les chèques, les premiers chèques du gouvernement fédéral vont arriver à partir du 6 avril. Puis là, bien, il y a le loyer à payer le 1er avril. Maintenant aussi, dans chaque région, il y a des banques alimentaires. On a annoncé une bonification du financement des banques alimentaires. C'est important, les gens, tout en faisant attention de se protéger, là, les bénévoles qui vont travailler dans les banques alimentaires, suivez les consignes, mais je veux vous dire un immense merci. On va avoir besoin de vous autres au cours des prochains jours, parce qu'il y a des gens, malheureusement, qui n'auront pas les sous pour être capables d'acheter la nourriture. Puis ça, là, on a tous une responsabilité d'aider. Donc, merci à ceux qui aident dans les banques alimentaires un peu partout au Québec. Un mot aussi sur les sans-abri. On est en train, là, ça devrait être dans les prochaines heures, de trouver des places pour être certain que nos sans-abri ne soient pas dans des salles communes à risque, là, donc toutes sortes d'alternatives là, qui sont examinées, entre autres au Royal Vic à Montréal, dans d'autres endroits. Donc, on est très conscient là, du défi, puis on en discute, puis on s'en occupe actuellement. Maintenant, mes remerciements du jour, c'est pour le personnel qui fait l'entretien ménager puis qui désinfecte les établissements partout. Évidemment, à commencer par le réseau de la santé, mais partout au Québec. Votre tâche, là, est plus importante que jamais. Donc, merci beaucoup à tout le personnel d'entretien ménager. Donc, je conclue en vous disant, on a actuellement une espèce d'armée de 8,5 millions de personnes pour combattre le virus. Et ça risque d'être la plus grande bataille de notre vie. Puis on va en parler longtemps. Hein? Nos petits-enfants, dans 20 ans, dans 50 ans, vont se rappeler comment le peuple québécois a réussi, ensemble, à gagner la bataille. Donc, c'est une grosse bataille qu'on mène, là, puis on va être fiers de l'avoir gagnée, puis moi, je suis convaincu qu'on va la gagner. Mais comme je le dis à chaque jour, l'important, c'est de tout faire pour limiter les contacts physiques, limiter la contagion, limiter la perte de vie, et on est capable de la gagner, on va la gagner, ensemble, cette bataille, cette guerre, mais j'ai besoin de vous, je compte sur vous. Merci.
Voulez-vous dire quelques mots en anglais ou on prend?
Oui. So, Québec is united.
Alors, François Legault, donc, qui résume en quelques phrases son intervention en français. Alors, Julie-Christine Gagnon, qui m'accompagne, on l'avait un petit peu beaucoup anticipé, augmentation de 326 cas d'infection et surtout deux décès de plus.
Deux décès de plus pour un total de 6. Mmh. On parle de 1339 cas confirmés. Mmh. 78 personnes hospitalisées, c'est une augmentation de 11 si on compare à hier. 35 personnes qui sont aux soins intensifs, une augmentation de 4. Si on veut, malgré tout, là, il a parlé de chiffres encourageants parce que on augmente le nombre de tests et il y a 26 600 cas qui sont négatifs.
Oui, ça, c'est bon que tu le soulignes parce que ça nous donne de l'espoir quand même, tu sais.
Il faut essayer d'en trouver un petit peu ce marasme. Donc, 26 600 cas négatifs. Il y a 3 000 qui sont en attente de résultats. Ouais. Alors, il ne faut pas lâcher. Il l'a répété, hein. On va gagner cette bataille-là, comme il l'a dit, la bataille de notre vie. Il a dit, nous sommes une armée de 8 000 1,5 million pour combattre le virus. Et il faut donc limiter les contacts physiques, la distanciation sociale. Il faut prendre ça au sérieux et il faut l'appliquer. Ouais. C'est comme ça qu'on va s'en sortir.
Il a rappelé que les snowbirds, il faut qu'ils s'isolent pendant 14 jours. On s'en va aux questions.
Le premier ministre, donc, vous parlez de résultats encourageants, mais c'est quand même la troisième journée d'affilée où on constate un nombre de cas qui est en hausse de manière importante, plus 326. Hier, c'était 385 de plus. Il y a beaucoup de gens qui s'étonnent de voir que le Québec est l'endroit au Canada où il y a le plus de cas. En Ontario, ils sont 14 millions. Ils ont l'aéroport le plus important au pays. Ils font plus de tests et pourtant, il y a moins de cas. Donc, je comprends que la semaine de relâche ici a peut-être moins bien tombé qu'en Ontario, mais est-ce que c'est le seul facteur? Est-ce que c'est pas inquiétant, surtout dans la mesure où on se targuait jusqu'ici d'être à l'avant-garde de ce qui se faisait dans les autres provinces?
Bon. Là, vous voyez, là, à 26 600 cas négatifs, là, on passe devant la moyenne canadienne per capita. Donc, c'est une grosse augmentation du nombre de tests, de résultats de tests aujourd'hui, puis une augmentation de 326. Donc, toute proportion gardée, là, c'est un ratio qui est encourageant. Par contre, si on regarde au total, bien là, on revient sur les implications. Encore aujourd'hui, à peu près au moins 60 % des cas, ce sont des cas de gens qui ont voyagé. On a beaucoup de gens qui ont voyagé à peu près au pire moment durant le congé scolaire, donc il faut en tenir compte. Mais moi, ce qui est intéressant, là, c'est de regarder la progression. Puis aujourd'hui, compte tenu du nombre de nouvelles analyses, c'est encourageant. Il faut dire aussi que le choix qui était fait, qui était le bon choix par le docteur Arruda, c'est qu'on a commencé à tester les personnes qui étaient et avec des symptômes et qui avaient voyagé. Donc, évidemment, là, on a mis comme toutes les chances de notre côté de trouver des cas positifs. On n'a pas juste testé ceux qui ont des symptômes, on a testé d'abord ceux qui avaient voyagé et avaient des symptômes. Là, on est rendu à la deuxième étape, et puis on teste des gens, juste des gens qui ont juste des symptômes. Et donc là, nos résultats, quand on regarde les nouveaux résultats, sont dans la moyenne de ce qu'on voit dans d'autres provinces ou dans d'autres États. Pour M. le Dr.
Oui, c'est ça. En fin de compte, vous savez, c'est très difficile de comparer ce qui se passe à un endroit ou à un autre. C'est en fonction aussi des types de vols qui sont faits. La courbe britannique, c'est la Chine. Nous, on a eu la France, l'Italie. Il y a eu la semaine de relâche. Puis on a encore, pour l'ensemble du Québec, dans ce qu'on appelle une majorité de cas sont associés à des voyages. D'où l'importance du message qu'a dit le ministre Legault en lien avec les personnes qui vont rentrer. Ces personnes-là, là, ils sont à l'extérieur pendant une période où il y a encore plus de cas qu'au moment où on avait la semaine de relâche, parce qu'il y en a plus en France, il y en a plus ailleurs, il y en a plus aux États-Unis. Donc, c'est encore très important de le faire. Une chose que je voudrais mentionner ici aussi, c'est que en même temps qu'on a mis des mesures de distanciation sociale, qu'on est en pause actuellement, là, ce qui va permettre aux gens de diminuer la transmission locale qui commence à s'installer dans certaines régions un peu plus que d'autres, il y a des gens qui vont vous téléphoner, qui vont faire des enquêtes épidémiologiques, là. On ne cherche pas des coupables, on ne cherche pas à taper ses doigts aux gens qui ne sont pas isolés. On cherche à faire ce qu'on appelle une recherche de cas et de contacts pour aider à diagnostiquer les maladies plus tôt, puis si vous avez besoin de traitement, le faire, mais surtout donner au conseil à ceux qui auraient pu être exposés qui n'avaient pas contaminé d'autres personnes. Donc, si vous recevez un appel de votre direction de santé publique, d'une infirmière, d'un médecin ou d'un autre collaborateur, il faut collaborer. De la même façon que si vous allez en clinique, il faut le dire si vous avez voyagé. Il faut le dire que peut-être vous avez été en contact avec quelqu'un qui est positif. Ne cachez pas ça, parce qu'en le cachant, vous empêchez le médecin de se protéger puis nos anges gardiens de se protéger. En ne collaborant pas avec la santé publique, vous empêchez qu'on fasse une enquête pour aider les gens à savoir s'ils ont été exposés. Donc, c'est encore majeur. On a augmenté de façon très significative la capacité des enquêtes en santé publique, mais il faut que vous nous aidiez, puis il faut que vous respectiez les consignes. Les gens âgés qui sortent par la porte d'en arrière pour aller sortir non accompagnés se mettent en danger et mettent en danger leurs propres amis à l'intérieur du centre. On ne fait pas ça pour le plaisir, je vous le dis. Pour certains, c'est une question de vie ou de mort, Et vous pouvez être dans la séquence où quelqu'un, au bout de la ligne, va mourir parce que vous n'aurez pas respecté ses consignes. Je sais que la majorité des Québécois le comprennent, la majorité des Québécois le font, mais il ne faut pas laisser les petites poches de gens qui n'écoutent pas, qui ne comprennent pas, on veut les convaincre, puis à un moment donné, s'il faut, on n'est pas rendu là, mais de grâce, faites ce qu'on vous a prescrit. C'est comme un traitement pour la communauté, pour diminuer l'impact et diminuer le nombre de morts.
M. Lavallée?
Oui, on a vu au cours des dernières heures le gouverneur de l'État de New York annoncer qu'il y avait plus de 30 000 cas à l'intérieur de personnes infectées dans son État. Le nombre double tous les deux ou trois jours. On comprend que la frontière est fermée aux visiteurs, mais est-ce que c'est pas inquiétant dans la mesure où c'est un des plus proches voisins du Québec? Il y a des camionneurs qui passent par là, beaucoup de Québécois qui vont revenir du sud des États-Unis, qui vont transiter par l'État de New York. Est-ce qu'il y a des mesures additionnelles à prendre de votre part ou de la part du gouvernement fédéral?
Oui. Bon, d'abord, quand on regarde les résultats pour l'État de New York, il faut tenir compte aussi que c'est un État qui teste beaucoup plus que la moyenne des États aux États-Unis. Donc, on peut se demander si on avait testé autant dans les autres États qu'on a testé dans New York, est-ce qu'on aurait la situation qui serait la même, finalement, dans plusieurs États aux États-Unis. Donc, il faut être prudent. Je reviens sur l'État de la Floride, étant donné qu'il y a quand même beaucoup de Québécois qui reviennent. C'est pour ça que c'est très, très important. Tous les Québécois qui reviennent au Québec, des États-Unis, peu importe où, il faut s'isoler, il faut rester à la maison, il ne faut pas sortir pendant deux semaines, parce qu'il y a quand même une étendue qui est assez grande aux États-Unis. Là, c'est sûr que dans l'ensemble des États-Unis, on a beaucoup moins testé, toute proportion gardée, qu'ici au Québec. Donc, on ne sait pas vraiment quel est l'état de la situation dans tous les États aux États-Unis. Donc, soyons prudents avec les gens qui arrivent des États-Unis en particulier.
Louis Lacroix, Cogeco Nouvelles.
Bonjour, M. Legault, Mme McCann, M. Arruda. Je m'adresse à l'humain derrière le premier ministre. Vous êtes, avant d'être premier ministre du Québec, vous êtes d'abord et avant tout un fils, vous êtes un mari, vous êtes un père de famille. Comment vous traversez personnellement cette situation-là? Est-ce que vous avez le support nécessaire moralement, etc.? Est-ce que vous vous sentez suffisamment fort pour continuer à être sur la ligne de front comme vous le faites depuis maintenant presque trois semaines?
Oui. Bien, écoutez, la vie continue. D'ailleurs, j'en profite, M. Lacroix, là, je sais que vous êtes encore une fois grand-papa, puis que votre petit Miro va bien, va mieux. La vie continue. Vous savez, il y a des bonnes nouvelles. J'en ai eu, moi aussi, des nouvelles de naissance dans ma famille. Il faut essayer de voir après la crise, là. Et puis, c'est ça, là, notre défi, c'est de dire, on racontera ça un peu comme une grosse anecdote qui est arrivée pendant une période de notre vie, mais on est capable de passer au travers. Moi, je me sens bien. C'est sûr que je vois pas mes deux fils là, qui sont à Montréal, mais je me sens bien. Je vous dis tout de suite, je vais prendre une journée de congé samedi. Ça va probablement être Geneviève qui va être ici. Donc, je fais attention à moi et je fais attention aussi aux gens qui sont autour de nous. Mais il faut, bien sûr, prendre ça au sérieux. C'est grave ce qui se passe, mais on va passer au travers. C'est une période difficile, c'est temporaire. Donc, il faut le regarder comme ça, puis, comme premier ministre du Québec, mais moi, je suis fier de ce qui se passe au Québec. Je suis fier, je le disais au début, de la réaction des Québécois, les Québécois qui suivent les consignes, les Québécois qui s'aident, là, puis on va arriver avec... parce qu'il y en a plein qui nous appellent, puis disent « Où je peux aller aider? » Donc, on va les aider à avoir l'adresse des organismes qui ont besoin d'aide. Donc, c'est beau de voir ça. Même si c'est dur, c'est beau de voir la réaction humaine des Québécois.
Deuxième question, M. Legault. La Ville de Québec, hier, a annoncé que, jusqu'à maintenant, ils ont mis à pied 2000 personnes qui travaillent pour la Ville, des employés. Vous avez pris la décision, vous, dès le début de cette crise-là, de maintenir, de donner le salaire des gens, finalement, de ne pas faire de congédiement, même s'il y a des gens qui ne peuvent pas travailler, qui sont à la maison, qui ne peuvent pas faire de télétravail, vous avez décidé de maintenir le lien d'emploi et donc de les payer. Est-ce que, d'abord, comment vous accueillez la décision de la Ville de Québec et est-ce que vous songez à mettre des gens à pied au gouvernement?
OK. Non, on n'a pas d'intention de mettre qui que ce soit à pied. Il faut comprendre que pour ce qui est de la Ville de Québec, ce ne sont pas des employés permanents, c'est des employés qui étaient temporaires, ou je ne sais pas c'est quoi le mot exactement, là, mais en tout cas, qui n'étaient pas des employés permanents. Donc, faut quand même distinguer. Mais pour ce qui est de nous, bon, la seule affaire que je pourrais dire, c'est les gens qui sont payés par le gouvernement d'un réseau ou ailleurs, qui ont du temps, bien, s'il vous plaît, allez aider. Là. C'est le temps de s'aider, c'est pas le temps de couper.
Alain Laforêt, TVA.
Bonjour, Monsieur le Premier ministre. Vous nous avez habitués à beaucoup de transparence. Vous avez passé un message tout à l'heure au réseau de la santé. Vous êtes au courant des notes qui circulent dans le réseau de la santé? Peut-être pas, ou votre ministre est au courant. Je vais vous en lire une qui a été envoyée au réseau de la santé en Estrie, où on dit « Devant la pénurie d'équipements de protection individuelle, nous devons rationaliser leur utilisation à travers nos établissements. » La FIC, ce matin, a dit qu'elle vous croyait qu'il y a de l'équipement, mais a dit au gestionnaire « S'il vous plaît, aidez-nous à avoir lorsqu'on en a besoin. »
Bon, je vais laisser Daniel compléter, là, mais pour moi, la commande est claire, là, puis je le répète régulièrement à mes réunions avec les gens de la santé. Il n'est pas question de mettre à risque qui que ce soit. Il n'est pas question de négliger des équipements dans le réseau de la santé. Maintenant, j'avoue, je l'ai dit tantôt, on a eu des petits problèmes de distribution. Il nous manque pas d'équipements de protection au total au Québec, mais il y a eu des problèmes de distribution. Il y a peut-être eu des petits problèmes de directive, mais moi, je vais être très clair, là. On doit mettre tout le matériel qui est nécessaire en tout temps, partout dans le réseau de la santé.
Oui, effectivement. Et moi, j'en fais ma priorité. C'est ma grande priorité. Et on veut savoir, comme ça nous a été dit hier, là, quelques endroits où il y avait des problèmes. On y a vu. On va corriger. On corrige la situation. Puis on veut le savoir et on va s'organiser pour le savoir aussi. J'ai demandé d'ailleurs à mon chef de cabinet de contacter tous les syndicats hein, qui sont au courant. Par exemple, la présidente de la FIC là, pour les infirmières, infirmiers et les inhalothérapeutes pour avoir l'information, là, qu'est-ce qui se passe sur le terrain. J'ai demandé au sous-ministre de demander au PDG d'avoir une rencontre téléphonique tous les jours avec leur syndicat. On veut savoir qu'est-ce qui se passe sur le terrain. Ce qu'on dit, nous, on va corriger la situation aussitôt qu'on le sait, parce qu'effectivement, comme dit M. le Premier ministre, c'est un problème de distribution. On a la capacité. Toutefois, c'est sûr que ce qu'on fait actuellement est différent de ce qu'on faisait avant. De la façon dont on gère les masques, les gens ont été habitués à avoir les masques à portée de main, mais on a eu des vols à certains endroits. On est obligé de les mettre sous clé. Mais ça ne veut pas dire là, qu'ils ne sont pas là pour le personnel. Alors, ce que je dis aujourd'hui, c'est que les infirmières et tout le personnel doivent avoir le matériel nécessaire. Et c'est ce qu'on fait actuellement. Puis on va avoir les canaux de communication. On veut savoir ce qui se passe sur le terrain et on va y remédier.
Une autre grande préoccupation de la FIC, Madame la ministre, c'est les vêtements. Il y a encore du personnel de la santé qui sort à l'extérieur et qui ramène des vêtements des hôpitaux chez eux pour le laver. Dans une période de pandémie, est-ce que c'est normal?
Non. Et on va y voir. Il faudrait qu'on s'organise là, dans les établissements pour assurer les services de nettoyage. Moi, j'ai été dans le réseau, vous le savez, pendant plusieurs années. Et c'est une situation que je ne trouve pas normale, même en temps normal. Et on va y voir et on va s'organiser pour que les uniformes soient lavés à l'intérieur des établissements.
Charles Cavalier, le Journal de Québec.
Oui, bonjour. Docteur Arruda, est-ce que c'est possible de savoir dans quelle région on a enregistré les nouveaux décès? Et est-ce que c'est possible d'avoir, est-ce que le profil des hospitalisations a changé? Est-ce que c'est possible d'avoir les tranches d'âge?
Bon, premièrement, vous comprendrez que quand on nomme deux cas puis qu'on parle de région, là, ça devient possible d'identifier, particulièrement quand ça se passe dans des petites régions. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que ces deux personnes, elles sont pas en région métropolitaine, disons, là, si je pourrais dire ça, et il y a encore au moins une personne sur les deux qui était associée à un voyage. Pour la raison pour laquelle j'ai dit ça, là, c'est pour pas que les gens pensent qu'il y a une transmission communautaire. Il commence à y avoir de la transmission communautaire, on vous l'a dit. Là. Le profil de certains territoires où, quand, à mesure qu'on va avancer, à mesure que, je vous dirais, les personnes qui reviennent de voyage vont véritablement faire l'isolement obligatoire, ces cas-là ne deviendront plus des générateurs de cas au Québec. On va avoir une proportion plutôt de gens qui l'ont attrapé ici, etc. Mais donc, on n'en est pas là partout au Québec. On se préoccupe de ça comme tel. Mais c'est pour ça encore, je reviens sur... Puis je ne suis pas en train de vous dire qu'il ne faut pas considérer que les gens qui n'ont pas fait de voyage ne sont pas à risque. Il y a des territoires, on a des histoires, on n'arrive pas pour trouver le voyage, d'où l'importance de collaborer avec la santé publique comme tel. Les frontières sont fermées. Il y a quand même des gens qui reviennent des États-Unis. Il faut regarder ça. Puis il faut enquêter tous les cas et les contacts. Donc, puis ces deux personnes-là sont des personnes qui ont un âge avancé. Il faut comprendre, on l'a toujours dit, on va avoir dans les proportions de tests des gens de 50 ans, de 35, 50 ans, parce qu'on les teste. Ces gens-là, heureusement, ne se retrouvent pas nécessairement à l'hôpital, sont isolés à la maison, ils vont faire un rhume, une grippe, puis tout va rentrer dans l'ordre. C'est encore les personnes âgées avec des maladies chroniques qui vont être les plus touchées. On n'a jamais exclu qu'un jeune pourra avoir un problème respiratoire pulmonaire. C'est comme un peu le SRAS, c'est arrivé, mais ça ne sera pas au même taux que chez les personnes âgées. On va suivre la situation de très, très près. Et donc, il faut se considérer à risque de le faire, surtout à risque de le faire puis de le transmettre à quelqu'un d'autre. Dans les faits, protégeons-nous tous, OK? Parce que même si l'enfant, par exemple, n'aura pas de syndrome important, il va peut-être infecter sa grand-mère ou quelqu'un dans sa famille qui a un cancer. Fait que, dans les faits, là, même si on n'est pas à risque, faisons-le pour les autres. Et c'est ça qui va briser la chaîne de transmission et qui va réduire les cas qu'on va avoir chez les personnes âgées.
Depuis hier, on est passé d'à peu près 12 000 à 26 000 cas négatifs. Là, j'imagine que c'est parce qu'il y a un paquet de résultats qui sont rentrés. C'est pas parce qu'il y a eu 15 000 tests.
Je vais vous expliquer ça, là, parce que c'est pour ça qu'on veut éviter les comparaisons avec les autres provinces. C'est que, dans les faits, là, on est passé d'un laboratoire qui testait seulement, puis avec un test de qualité qu'on faisait valider par Winnipeg. À un moment donné, on a dit Winnipeg, c'est plus nécessaire, le test du Québec est assez bon. Ça, c'est en pratique courante, on appelle ça de la qualité, contrôle de qualité des laboratoires. Un test comme ça, quand on le décentralise vers des régions, quand on crée 38 centres où on peut faire le test, il y a une période de validation qui est nécessaire. Et là, on appelait des cas probables, ce qui était probablement des cas réels, parce que nos laboratoires ont été performants. Et là, à un moment donné, compte tenu des informations qu'on avait sur l'ensemble des laboratoires, même si tout le processus n'était pas fini, on a décidé de dire que maintenant, c'était probable. Et donc, quelque part aussi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a voulu, je l'avais dit, testons, augmentons les tests. Puis là, les gens sont mis à tester en quantité importante. Et la statistique, qui est très importante pour moi, parce que moi, ça me donne des données, était moins importante que de tester, puis s'occuper des patients. Fait que pendant cette période-là, de 3-4 jours d'adaptation, comme on a changé de système, on a obtenu, à mesure qu'on va avancer, à mesure qu'on va aussi implanter des systèmes informatiques qui sont en cours, on va avoir plus de données. Parce que là, je peux avoir des chiffres sans connaître. Là, on va connaître si c'est un homme, si c'est une femme, quel groupe d'âge, si c'est un cas de voyage, si c'est un cas qui a été attrapé. Notre recherche épidémiologique de statistiques va s'améliorer. Donc, c'est un backlog. Et on avait l'impression qu'on testait beaucoup moins qu'ailleurs, mais dans les faits, techniquement, on testait beaucoup, mais on ne recevait pas la donnée au central. Mais vous comprendrez que c'est normal qu'on fasse ça, parce que on choisit la priorité, c'est tester. Puis la statistique, même si le docteur Arruda attend après, il attendra, parce que ce qu'il faut faire, c'est s'occuper des patients et des cas.
Merci. Maintenant, Marco Bellard, Cyrino.
Voilà. Donc, on continue de suivre ce point de presse. Julie-Christine Gagnon va continuer à écouter ça pour nous. Si jamais il y a une grosse nouvelle qui sort dans les prochaines questions-réponses, on reviendra. En attendant, on va s'en aller vers la pause, parce qu'il y a l'enjeu sanitaire, mais il y a l'enjeu, je dirais, argent, revenu, salaire. Et qu'est-ce que tu veux? Il y en a un questionnement. Ils nous font des annonces, les gouvernements, mais les chèques, là, ils vont-tu rentrer à temps? Et deux des plus importants porte-parole des travailleurs au Québec vont être avec nous après la pause.